Raymond Bayat par A.E.W. Mason. Moins que personne, Dorman Royle s'imposait pour être le héros d'une semblable aventure. Il exerçait la profession de sollicitor, et ses affaires lui ressemblaient par leur caractère de droiture un peu lourde. On n'encourageait pas dans son étude ces audacieuses tentatives de piraterie que suscite devant les tribunaux l'espoir d'une belle prise. Seuls des clients d'une moralité et d'une solvabilité également certaines recherchaient son avis prosaïque mais digne de confiance. Dorman Royle était, en un mot, le dernier des hommes dont on put croire qu'il dut jamais sentir ses cheveux se dresser sur son crâne ou son cœur sombrer dans un insondable abîme de terreur. Ces sensations, néanmoins, il les éprouva. En juin, Royle alla voir son ami Henry Groom. Il désirait lui louer pour l'été sa maison de campagne. « Elle est bien isolée, dit Groom. Pas d'importance, répliqua-t-il. Et toute sa face rayonna de ce sourire orgueilleux un peu fade, un peu niais, qui n'a jamais eu qu'un sens depuis les origines du monde. « Vous allez vous marier ? » s'écria Groom. « À quoi le reconnaissez-vous ? » demanda Royle. Sans doute surprit-il dans la voix de son ami une pointe d'envie ou de regret, car son sourire s'éteignit et il hocha la tête en signe d'intelligence. « Oui, mon vieux, c'est bien cela. Évidemment, il en résultera un relâchement des vieilles amitiés. Je vous rencontrerai de temps en temps au club dans l'après-midi, et vous viendrez dîner avec nous tant qu'il vous plaira. Mais fini, entre vous et moi, les causeries intimes sur ce qui nous intéresse. Nous serons un tant soit peu sur nos gardes l'un vis-à-vis de l'autre. Je fais cependant ce que je puis, je vous loue votre maison pour ma lune de miel. » Groom écouta avec étonnement. Il ne s'attendait pas à être si bien deviné. Il croyait voir un homme nouveau, un étranger, affranchi de tout lien d'amitié et maître d'un trésor dont la découverte lui transfigurerait le monde. « Qui épousez-vous ? » demanda-t-il. Et la réponse l'étonna plus encore. « Ina Fail. »« Ina ? Est-il possible ? Parfaitement. » Il y avait un défi dans la voix de Royle. Groom ne le releva pas. Bien entendu, il connaissait de vue et de réputation Ina Fail, qui, dans ce moment, ne la connaissait à Londres. C'était une jeune actrice à qui ne suffisait pas d'être belle. « Je sais où elle travaille, » dit brusquement Royle. Il lui a fallu travailler dès l'âge de 16 ans et sa situation, c'est le talent qui la lui a faite. Elle renonce aujourd'hui à tous ses succès. Groom se demanda comment Ina Fail pouvait se résoudre si tôt à la retraite. Une artiste de 23 ans, qui a déjà connu les triomphes, doit considérer le monde comme un séjour fort agréable. Ina pratiquait le métier qu'elle aimait, et elle en était payée avec une libéralité d'autant plus éclatante qu'elle avait été plus immédiate, non seulement par l'adoration du public, mais par l'accession de la pauvreté aux gros émoluments, alors qu'elle était assez jeune pour jouir de tous les avantages que l'argent confère. Groom se perdait dans ses réflexions quand il en fut arraché par Royle. « Oui, c'est là un genre de renonciation plus étonnant chez la femme que chez l'homme, car, n'est-ce pas, l'art du théâtre a bien des points communs avec la vie naturelle d'une femme. Je veux dire que la beauté, le talent de s'habiller, la faculté de répondre vivement à l'humeur d'autrui jouent, dans les deux cas, le même rôle. Mais comprenez-vous, elle a son caractère comme elle a ses dons. Et c'est par là que tout s'explique. » Royle consulta sa montre. « Allons la voir, voulez-vous ? Maintenant ? Maintenant ? Je lui ai promis de vous amener. » Et se levant, il ajouta, « J'y songe. J'aurais déjà dû vous dire, à propos de votre maison, qu'Ina possède un chien, un épagneul noir. Cela ne vous fait rien, j'espère. » « Rien du tout, » dit Groom en prenant son chapeau. Dorman Royle et Ina Fail se marièrent vers la fin du mois et inaugurèrent leur vie commune dans la maison que Groom leur avait louée. Elle se dressait sur l'un des plateaux arides qui dominent la vallée de la Tamise, dans un jardin de roses et de pelouses vertes. Elle était neuve. Les arbres n'y montaient pas encore très haut, ayant été plantés par Groom. Le moindre souffle de vent y devenait une brise et sifflait autour des fenêtres. Mais en l'absence de vent, on n'eût trouvé nulle part un lieu plus paisible. Et des bruits trop légers pour être perçus dans une rue s'y enflaient jusqu'à la jactance, la nuit surtout. Le grondement des trains descendant à l'ouest déchirait l'air d'un fracas de tonnerre, et cependant, l'on ne distinguait dans la vallée qu'une minuscule file de lumière clignotant très loin entre les arbres. Les nouveaux époux étaient là depuis une semaine, lorsque Ina communiqua à son mari un télégramme qui l'appelait au chevet de sa mère. « Comme vous voyez, Ce n'est pas grave. Mais elle me réclame et je devrais, il me semble, aller passer près d'elle un jour ou deux. Elle partit le lendemain matin. Norman Royle traîna pesamment les heures de sa solitude jusqu'à assez avant dans la nuit qui précédait le retour de sa femme. Minuit était proche, quand sa curiosité commença de s'éveiller. Assis dans sa bibliothèque, il entendit très nettement par la fenêtre un bruit métallique. Impossible de s'y tromper. Quelque part dans le jardin, on avait ouvert et laissé se refermer une porte grillée. Le bruit était celui d'un loquet retombant dans le mentonnet. Absorbé par son livre, il n'y prit pas garde tout de suite. Mais au bout d'une ou deux secondes, il se demanda qui pouvait bien avoir ouvert une porte à pareille heure dans ce jardin isolé. Il se leva, prêta l'oreille, le bruit ne se renouvela pas. Si net qu'il eût été, Roy l'eût incliné à le croire imaginaire s'il n'avait à ce moment jeté les yeux sur le chien d'Ina, l'Espagnol noir, et il dut admettre que ses sens ne l'avaient point abusé, car le chien lui aussi avait entendu le bruit. Couché en rond jusque-là sur le parquet ciré à l'extrémité de la pièce, et dans sa fourrure sombre, presque invisible à un œil distrait, il s'était dressé maintenant. Il pointait des oreilles, et ses yeux s'attachaient à la fenêtre avec cette fixité singulière qu'on voit au regard des chiens. Norman Royle se leva. « Ici, » commanda-t-il dans un murmure. Mais l'Espagnol ne bougea pas. Le mufle haut, la lèvre inférieure agitée par un tremblement, il ne détachait pas ses yeux de la fenêtre. Royle marcha doucement vers la porte et l'ouvrit. Elle donnait sur un vestibule d'allées de blanc et de noir qui prenait le milieu de la maison. À sa droite, une porte découvrait l'allée carrossable, une autre, à sa gauche, conduisait à une loggia et une terrasse. Il ouvrit cette seconde porte et appela de nouveau, tout bas, « Ici, Duc !» Cette fois, le chien lui obéit et, filant d'un trait entre ses jambes, s'élança au dehors. Royle le suivit. La nuit était brillante. La clarté de la lune effaçait presque les étoiles. Il embrassa du regard l'étendue de la vallée jusqu'aux Chilterns dont les futaies, à l'horizon, nageaient dans la brume. Le vent se taisait. Les arbres, immobiles, semblaient découpés dans du métal. Trois marches de briques descendaient de la terrasse à la pelouse du tennis. Sur le côté de la pelouse, une petite porte de fer donnait accès à une prairie. C'était cette porte que l'on avait laissée se refermer après l'avoir ouverte. Mais il n'y avait personne ni sur la pelouse, ni dans la prairie, et il ne se trouvait à proximité aucun arbre pour dissimuler dans son ombre un intrus. Royle regarda le chien. Posté au bord de la terrasse, l'animal observait la pelouse. Roy le savait bon chien de garde, cependant il ne grognait pas. Il semblait s'apprêter à bondir, oui, mais aussi attendre, pour bondir, l'ordre d'une voix familière. Et Roy, en s'en avisant, fut traversé par une étrange idée. Seul, durant ces deux jours, il n'avait guère passé une minute sans que lui fût présent le souvenir de l'absente, guère passé une minute sans qu'il en eût mal au cœur, et soupira après elle. Ses vœux étaient-ils exaucés? Il jouait avec cette question-là sur la terrasse, dans la paix du clair de lune. Oui, avançant de 12 heures son retour, Ina s'était hâtée à travers la prairie et avait ouvert la porte. Dans son empressement à le rejoindre, elle n'avait pas pris la peine de la refermer et l'avait laissé se rabattre derrière elle. Elle était là, maintenant, à son côté. Il tendit la main pour lui saisir la main, et brusquement, il comprit qu'il ne jouait plus avec une fantaisie, qu'il y croyait. Ina était réellement là, toute proche. Il ne la voyait pas, mais à qui la faute? Il y avait encore chez lui un trop grand résidu d'imperfection pour un don aussi suprême. Cela viendrait, assurément, cela viendrait lorsqu'à vivre avec elle, il l'aurait appris à la mieux connaître. « Ici, Duc, » fit-il, et il rentra dans la maison, où il s'attarda longuement au fumoir, émerveillé à la perspective de cette vie nouvelle si extraordinaire qu'elle allait être la sienne. Mesurant la différence de stature entre le Norman Royle qu'il était un mois plus tôt et celui d'à présent, il s'abîmait dans l'humilité et la gratitude. Un délai de quelques heures allait suffire pour amener chez lui un complet revirement d'esprit. Il s'éveilla dans le noir, et demi-conscient encore, il entendit le bruit d'un mouvement régulier, cadencé, qui se faisait dans la chambre. Instantanément, les dernières vapeurs du sommeil se dissipèrent. Il comprit ce qu'il avait éveillé. L'Espagnol, couché sur le couvre-pied au fond de son lit, battait de la queue comme si une personne amie était là qui le caressait. Royle se souleva. Le lit trembla et craqua sous lui. Le chien ne s'en émut pas. Il continua d'agiter la queue dans le silence de la chambre obscure. Certainement, quelqu'un était là. Et Roy cria d'un coup très fort, si impétueusement que sa voix le surprit lui-même. « Ina ! Ina !» Ses bras se tendirent, il écouta, mais ne reçut pas de réponse. On eût dit qu'il venait de rompre un charme, car les mouvements du chien s'arrêtèrent. Alors il frotta une allumette, alluma sa bougie et fouilla des yeux les coins de sa chambre. Mais nulle part ne se trahissait aucune présence. Il était bien seul. Il souffla sa bougie et se recoucha. Autour de lui, les ténèbres se reconstituèrent. Ne pouvant se rendormir, il s'appliqua à ne pas bouger. Ce n'était pas la peur qui le tenait immobile. Elle ne devait venir qu'ensuite, mais une sorte d'attente fiévreuse. Il se sentait au seuil d'un monde inconnu. Ce sentiment, il l'avait éprouvé déjà. Mais à présent, il allait franchir le seuil. Il allait voir. Il ne vit rien. Seulement l'épagneul, après être un moment demeuré tranquille, se remit doucement, régulièrement à battre de la queue sur le lit, comme s'il eût attendu que son maître retombât dans le sommeil pour reprendre une communion invisible. Cette fois, Roy lui parla. « Duc, » chuchota-t-il. Et il fit flamber une allumette. Le chien reposait sur le ventre, le cou allongé, le museau sur ses pattes. « Duc, qu'est-ce qu'il y a ?» L'animal, relevant la tête, tourna légèrement le corps. Une voix humaine n'eût pas dit plus clairement. « Qu'est-ce qui vous prend ? Vous nous dérangez ?» L'allumette s'éteignit entre les doigts de Roy. Il n'en alluma pas une autre. De nouveau, il s'étendit sur le lit. Mais la douce imagination, née en lui au clair de lune sur la terrasse, n'habitait plus son esprit. L'idée lui était sinistre de ce chien attendant qu'il se rendormît. Et sans bouger de sa place, tant il avait ses raisons de tenir pour certain le voisinage d'une personne à laquelle il devait obéissance, s'apprêtant à renouer avec elle un étrange commerce, il ne songeait plus à Ina en tant que visiteuse. Mais il se demandait d'où lui venait le chien et qui en était, avant elle, le maître ou la maîtresse. Sans doute, l'obscurité, le silence nocturne et l'insomnie produisaient leur effet sur Roel, car il gisait dans un état de bizarre excitation mentale qui, peu à peu, en s'accroissant, tournait à la peur. Oui, maintenant il avait peur. Il ressentait une impression de danger d'autant plus alarmante qu'elle ne se justifiait point. Il y avait autour de son lit des souffles étouffés. Tantôt quelqu'un se penchait sur lui, tantôt une main frôlait sa couverture. Étant le plus émotif des hommes, il se réjouit quand un filet de jour gris, passant à travers la fente des rideaux, s'épanouit en éventail dans la chambre. Alors, il se retourna sur le côté et dormit jusqu'à ce que le soleil fût haut. À la clarté limpide d'un matin de juillet, les pensées de Roy prirent une couleur plus sobre. Néanmoins, une ou deux fois dans la journée, il fit une enquête prudente auprès du jardinier et dans les boutiques du village. À chaque fois, la réponse fut la même. La maison n'a pas d'histoire, pas de tradition. Elle ne date que de 10 ans. Il n'y avait qu'un champ à la place qu'elle occupe. Les arbres mêmes ont été plantés à l'époque où on l'a bâti. Quand, le soir, la femme fut de retour, il lui demanda. « La nuit dernière, juste avant minuit, que faisiez-vous ?»« La nuit dernière, juste avant minuit, je dormais. »« Vous en êtes sûr ?» Il y avait dans l'interrogation de Royle quelque chose de pressant qui fit trembloter le sourire d'Ina. Il disparut tout à fait quand elle eut regardé Royle. « Bien entendu, » répondit-elle lentement, « j'en suis sûr. » Et après une courte pause, avec une hésitation légère mais sensible, elle ajouta « Pourquoi me demandez-vous cela ?» Dorman Roy se rapprocha d'elle et commit l'imprudence de lui dire « Parce qu'à minuit, la porte de la prairie s'est ouverte et refermée sans qu'une main l'ait touchée. Je pensais à vous, Ina. Je souffrais de votre absence. Et je m'étonnais. » Il parlait sur un ton demi-badin. Ina ne lui répondit pas sur le champ. Il se tenait à un pas derrière le fauteuil où elle était assise contre la fenêtre. Il ne pouvait donc lui voir le visage, mais il la vit qui raidissait son corps. « Vous aurez été victime d'une illusion, » répliqua-t-elle sans l'ombre de badinage. Il s'avança pour aller s'asseoir en face d'elle près de la table. « En ce cas, » dit-il, « le chien partagea mon illusion. » Elle ne changea pas d'attitude, elle ne bougea pas. Elle parut se pétrifier. Son visage devint un masque. Il sembla que par une miraculeuse maîtrise de soi-même, elle en eût chassé tout pouvoir d'expression. Mais ses yeux dilatés brillaient d'une lumière insolite. Elle se pencha et toucha son mari à la manche. « Racontez, » dit-elle. Elle n'avait retrouvé sa voix qu'avec peine, et l'ayant retrouvée, elle ne parvenait pas à la fermer. « Pardonnez-moi, Ina, » répondit-il, « je vous effrayais. J'aurais dû ne pas souffler mot de cela. Mais vous avez commencé de parler, il faut maintenant que je sache le reste. » Il raconta tout ce qu'il avait à raconter. Quand il eut fini, elle ne fit pas de réflexion. Elle demeura immobile et raide, le contemplant d'un œil inscrutable, déconcertant. Il se leva. « Ainsi, dit-il, ce n'est pas vous, Ina, qui êtes revenue la nuit dernière ?»« Non, » répondit-elle, d'une voix basse, mais claire, à présent et tout à fait rassurée. « Je dormais profondément la nuit dernière, beaucoup plus profondément qu'il ne m'arrive en général de dormir. C'est étrange. Je ne crois pas. Je crois que c'est très naturel. On me laissait en repos. Ne voyez-vous pas que cela s'accorde avec votre histoire ?» Norman Royle bondit de sa chaise. Cela fut si subit que sa femme, du coup, en revint à la vie et à la peur. « Que dites-vous ? » lui criait-il. Royle interrogea la pendule. « Il est tard. Je vais faire un tour. J'emmène le chien. » Il descendit et sortit par la porte de la façade. L'atmosphère était ce soir plus embrumée. La lune voguait entre des touffes de nuages. Royle marcha jusqu'à une grille bordant le plateau. Un quart d'heure avait pu s'écouler quand il siffla le chien et reprit le chemin de la maison. De la grille à la maison, il y avait une centaine de yards, et tandis qu'il approchait, les fenêtres de la petite bibliothèque lui redevenaient l'une après l'autre visibles. Largement ouvertes à la nuit, elles lui montraient, comme en miniature, tel était le coin de la pièce, des rayons de livres, les lampes sur les tables, les dossiers des chaises, tout cela extrêmement distinct malgré l'éloignement. La seule fenêtre qu'il n'aperçut pas encore était celle contre laquelle sa femme était assise, car elle se trouvait au bout de la pièce, presque au-dessus de l'entrée. Elle lui apparut enfin, et ce qu'il vit le cloua sur place. Ina était toujours assise à sa table, mais elle n'était plus seule. Là où, quelques minutes avant, il se tenait à un pas derrière elle, un autre homme se tenait maintenant, un homme au visage énergique, carré, brun sous une masse de cheveux noirs. Il était en smoking et cravate noire. Penché sur Ina, il lui parlait avec animation. Elle, repliée sur sa chaise, pressant de ses mains sa figure, écoutait, sans y répondre, une supplication dont l'ardeur était manifeste et qui l'accablait. Ainsi tous les deux se dessinaient dans le cadre de la fenêtre, extraordinairement distinct pour Royle, qui les observait du dehors, dans l'obscurité. Il voyait les muscles frémir sur la face de l'inconnu et les mains d'Ina se tordre, mais il ne pouvait rien entendre, l'homme parlait trop bas. Royle ne bougeait pas. Cet homme, se disait-il, cet homme, je le connais. Tout au moins pour l'avoir vu, mais où ? Et soudainement, il se rappela. Un soir, à une heure tardive, en période d'élection générale, débarqué d'Écosse à la gare de King's Cross, il suivait la Marylebone Road, lorsqu'attiré par le spectacle de gens attroupés autour d'un réverbère, il vit, en pleine clarté, au centre de la foule, un homme qui la dominait de la tête et des épaules et qui la haranguait. Il avait fait halte pour l'écouter. « Qui est-ce » avait-il demandé à un voisin. On lui avait nommé l'un des candidats, et c'était lui qu'il reconnaissait maintenant près d'Ina et dans la petite bibliothèque. Il essaya, mais en vain, de se rappeler le nom. « D'où peut-il venir ? » songea-t-il. Entre le village et la maison, il y avait deux bons milles. Puis comment avait-il fait pour entrer ? Les domestiques étaient allés se coucher une heure avant la sortie de Royle. En sortant, Royle avait laissé ouverte la porte du vestibule. L'homme avait dû guetter l'occasion et la saisir, sans doute comme la nuit précédente. Un sentiment de fureur jalouse s'alluma pour la première fois au cœur de Royle. Il s'élança dans le vestibule, poussa les verrous, monta l'escalier 4 à 4, ouvrit la porte de la bibliothèque. Ina était toujours assise à sa table. Elle ne se cachait plus la figure dans les mains. Il n'y avait personne qu'elle dans la pièce. « Ina » cria-t-il. Elle se retourna. Elle montrait un visage apaisé, un regard calme, des lèvres souriantes. « Eh bien ?» Il la retrouvait dans la même posture qu'à l'instant où il l'avait quittée. Il en venait presque à se dire que ses yeux lui avaient joué un mauvais tour et que tout le temps elle était restée immobile. Presque. Car la violence de son cri n'avait pu échapper à Ina. Et elle n'en demandait pas l'explication. Puis, il était hors d'haleine. Il devait avoir les traits en désordre. Cependant, elle ne l'interrogeait pas. Elle restait assise et lui souriait avec tendresse. Oui, c'était le mot, avec tendresse. Dressé en face d'elle, il croyait sentir son bonheur crouler en ruine autour de lui. « Ina !» répéta-t-il. Au dehors, sous la fenêtre, le chien aboya pour qu'on le fît entrer. Le cours des pensées de Royle en fut dérivé. Sa colère l'abandonna. Il crut plonger sous de la glace. Et tranquillement, il s'assit à l'autre côté de la table. « Vous avez ce chien depuis quelque temps ?» demanda-t-il. « Oui. Comment l'avez-vous eu ?» Elle lui répondit d'une voix qui ne tremblait pas, mais à mots comptés et après un long silence. « Par un de mes amis, lequel ?» Elle cessa de sourire. Mais d'autre part, elle ne témoigna aucune crainte. Elle ne détourna pas les yeux. « Pourquoi me demandez-vous cela ? Je suis curieux. Lequel de vos amis vous a donné ce chien ? Raymond Byatt. » Ce nom n'évoqua rien pour Royle. Il n'en gardait aucun souvenir. Il poursuivit cependant comme s'il se le rappelait bien. « Raymond Byatt. Ne s'est-il pas présenté naguère aux élections pour la circonscription de Marilyn Bone ? Oui, il a été battu. » Royle se leva. « Je devrais aller ouvrir au chien. » Il se dirigeait vers la porte. Quand il fut arrivé, il se retourna. « Mais, fit-il, si c'est un de vos amis, vous devriez l'inviter. » Elle redressa le corps. Ses mains s'accrochèrent au bras de son siège. « Il s'est tué, voilà 15 jours. » Royle parut changer en statue. Il regardait fixement Ina, qui le regardait fixement. Elle, comme sous la pression d'une angoisse horrible, sembla contrainte d'en dire plus. « Oui, chuchota-t-elle, une semaine avant notre mariage. Vous teniez à lui ? Nullement. » Royle eut au bout de la langue des mots d'amertume. « C'est lui qui est revenu l'autre nuit, revenu pour vous. Il était tout à l'heure près de vous, sitôt que je vous eus quitté. » Mais il savait que ce seraient des mots irrévocables. Il s'imposa l'effort de les contenir, descendit et fit rentrer le chien. À son retour dans la bibliothèque, il trouva sa femme debout. « Je vais me coucher, » lui dit-elle d'une voix qui l'implorait de se taire. « Je suis lasse, j'ai fait un long voyage. » Il se tut et la laissa sortir. Lui-même resta levé très tard, se demandant ce qu'il ferait au matin. La maison lui devenait un lieu d'horreur, et si sa femme ne lui disait pas tout ce qu'il y avait à dire, comment désormais vivrait-il côte à côte ? Quand il monta se coucher, Ina dormait. Il ouvrit au large la porte de communication entre leurs deux chambres et se retira dans la sienne, mais il ne s'endormit que d'un sommeil léger et s'éveilla pleinement alors qu'il faisait encore nuit noire. Une lampe était allumée chez sa femme. Par l'ouverture de la porte, il pouvait voir Ina. Elle tenait d'une main le verre d'eau placé d'ordinaire à son chevet sur une petite table, et de l'autre, elle y faisait tomber à coups mesurés des cristaux contenus dans un flacon. Il n'ignorait pas que c'était des cristaux de chloral, car elle en avait toujours à sa portée en raison des insomnies dont elle souffrait souvent. Il la regardait secouer le flacon en cherchant sa dose, et tandis qu'il la regardait, une frayeur telle lui serra le cœur que toutes les terreurs de cette nuit pâlirent et s'effacèrent devant elle. Ina faisait tomber dans le verre une quantité de chloral suffisante pour tuer une compagnie. Il se souleva très doucement sur son lit. Il l'entendit étouffer un sanglot. Et tandis qu'elle laissait au cristaux le temps de se dissoudre, elle avait un air de chagrin et de désespoir, comme de sa vie Royle n'en avait vu sur un visage. Bondissant à terre, il courut vers elle. Elle poussa un cri, voulut porter le verre à sa bouche. Déjà, il l'avait saisi au poignet. « Laissez-moi en finir !» s'écria-t-elle. Elle se débattait pour se rendre libre. Mais il lui arracha le verre, et tout à coup, perdant ce qui lui restait d'empire sur elle-même, elle fondit en larmes. « Ina, commença-t-il, que faisiez-vous ? » « Je suivais, répondit-elle. J'étais forcée de suivre. Il est toujours près de moi, il me commande. » Elle grelottait comme dans un accès de fièvre. « Bon Dieu ! » fit-il. « Oh, j'ai lutté, » sanglota-t-elle. « Mais il l'emporte. C'est la vérité. Tôt ou tard, il faudra que je suive. Confie-moi tout, » dit Royle. « Non. » Mais il la tenait contre lui, bien abritée dans ses bras. Il combattait pour elle et pour lui-même. Peu à peu, l'histoire lui fut dite, en phrases hachées, coupées de longs silences et de frissons. Il voulait m'épouser, ou je ne voulais pas. Il avait sur moi une sorte de pouvoir, le pouvoir d'un brutal très épris. Il s'est tué pour moi. Ina, là-dessus, donna sur son persécuteur les indications les plus étranges. Royle s'il ne l'avait vu naguère, n'eût pas ajouté foi. Mais l'histoire s'accordait bien au personnage. Et la voix d'Ina traîna dans le silence pour reprendre un instant après. Depuis son suicide, il ne me quittait plus. Il me disait « C'est à cause de vous que je suis mort. Vous devez me suivre. » J'ai toujours ce flacon de chloral près de moi, sous ma table de chevet. Et chaque nuit, pendant que vous dormiez, je tendais vers le flacon une main obéissante. « Excepté la nuit dernière ?» interrompit Royle. « En effet, » convint-elle, « parce qu'il vint ici alors que j'étais absente. Aussi ai-je dormi d'un sommeil profond. Mais cette nuit, si vous n'aviez pas été là, j'aurais complètement cédé à son ordre. « Dieu merci, » fit Royle avec douceur, « je suis là. » S'apercevant alors que le jour était venu, il se leva, écarta les rideaux et la lumière envahit la chambre. « Ina, faites quelque chose pour moi, » supplia-t-il. Elle comprit. Saisissant le flacon de chloral, elle fut le vider dans le lavabo sous le jet du robinet. « Ne me laissez pas seul, » dit-elle. « À présent que vous savez tout, je crois que je vais dormir, et dormir sans crainte. Quand vous êtes entré dans la chambre hier soir, je ne dormais pas, je faisais semblant. » Elle se blottit sous les draps et s'endormit très vite. Roy eut l'impression que la partie était gagnée. À quelques mois de là, cependant, un client causant affaire avec lui, dans son étude, vint à nommer Raymond Byatt. Roy fit un sursaut. « Vous l'avez connu ? » demanda-t-il. « Oui, » répliqua le client dans un rire. « Il avait fait à mon détriment un faux d'un millier de livres. Ce n'était pas le premier. » Il limitait fort adroitement les signatures, mais tout a une limite. Il se sauva des travaux forcés en se brûlant la cervelle. Royle se dressa. « Vous en êtes certain ?»«
Absolument certain. »
Il se rassit. « C'est la meilleure nouvelle que j'ai jamais apprise. » Cette fois, il était sûr de sa victoire. Il rentra chez lui le soir dans un état de joyeuse exaltation. « Que pensez-vous que j'ai découvert tantôt, Ina ? » dit-il à brûle-pourpoint. Une chose dont vous allez être comme moi, bien heureuse. C'est pour lui, non pas pour vous, que Raymond Byatt s'est tué en définitive. Il allait être poursuivi comme faussaire. Ina ne répondit pas d'abord. Vraiment, dit-elle enfin, et ce fut tout. Mais dans la voix de sa femme, Norman Royle avait eu la surprise de sentir une froideur inquiétante. Cette clairvoyance nouvelle, qui s'était chez lui révélée aux yeux de son ami Groom, venait de lui faire défaut. Ainsi s'achève Raymond Byatt par A.E.W. Mason.